Bonjour à tous. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Gaétan Héroux, documentariste et organisateur de la Coalition ontarienne contre la pauvreté. Sa conférence intitulée « Le Canada et l'itinérance au 20e siècle, la création des grands refuges » est présentée par l'ATSA, l'Action terroriste socialement acceptable, à l'occasion de l'événement « État d'urgence ». Avant de céder la parole à M. Héroux, je vous rappelle qu'il est interdit de prendre des photos ou d'enregistrer la conférence, que vous pourrez d'ailleurs réentendre sur le portail de la Bibliothèque nationale. Nous avons une équipe qui filme pour l'ATSA et le photographe de BANQ. Et autrement, merci de ne pas prendre de photos. Merci aussi d'éteindre vos téléphones cellulaires et je vous souhaite à tous une très belle rencontre.
Bonjour tout le monde. Je veux en premier dire merci à ATSA, à la bibliothèque, de m'avoir invité pour parler. Mon nom est Gaétan Héroux. Ça fait une vingtaine d'années que je milite dans le quartier de Dundas et Sherbourne avec une organisation qui s'appelle la Coalition ontarienne contre la pauvreté. Et aussi mon travail est dans le quartier depuis ce temps-là. Dans les dernières années, j'ai commencé à me poser des questions sur le quartier en fait, de comment est-ce que c'est que cette pauvreté, le monde qui est ici, ont arrivé ici. Je ne sais pas si le terme « skid row », c'est une expression qu'on connaît en français. En anglais, c'est « skid row », ça décrit la place où les plus démunis demeurent dans une ville. À Toronto, c'est dans le centre-est de Toronto, juste à 5 minutes du centre de business. Et l'autre question aussi, c'est dans ma recherche que je cherchais, c'était en fait de résistance. Parce que beaucoup de la résistance qui se passe dans nos quartiers, en fait des pauvres qui s'organisent pour lutter contre leur pauvreté, est très dur à trouver souvent, parce que c'est des travailleurs comme moi ou d'autres personnes, ou même les gens qui étaient dans les auberges ou dans les maisons de chambre qui militaient, qui ont ça, mais qu'on a de la misère à trouver la documentation de ça. Alors, qu'est-ce que je vais présenter? C'est un peu de la recherche du quartier, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à avoir un skid row aujourd'hui dans le quartier centre-est de Toronto, et aussi de commencer à regarder la sorte de résistance qu'il y avait, qui se passait un peu avant qu'on arrive là. Ça fait que je vais commencer avec cette map ici qui décrit un peu, c'est le quartier en jaune, ce serait un peu ce qui décrit le quartier centre-est de Toronto. Mais c'est vraiment la couleur orange qui est très importante pour nous autres, parce que c'est le quartier où l'infrastructure pour les sans-abri a été établie ça a pris une centaine, quasiment 200 ans à établir ça. Très dans ce quartier-là. Et on va voir qu'alentour de ce quartier-là, et juste à où le carré vert aussi, c'est le Regent Park maintenant, c'est les dernières places qui restent à bourgeoisie de gentrification, les gentrifications du quartier. On va voir, après la présentation, qu'autour de tout ce quartier-là, on a beaucoup de richesses et maintenant la ville veut avoir ce terrain-là. Ça fait que je vais commencer avec un peu l'histoire du quartier, parce que l'histoire du quartier commence avec le village de York, qui est vraiment l'histoire de la ville. Le terrain avant appartenait aux Indiens Mississauga. Et c'était une part du terrain. Je pense qu'ils ont vendu 392 square miles, 392 000 carrés. Et ça, c'était une part du terrain qui était vendu par les Indiens. Et en 1893, le village de York a été établi par Simcoe et était juste au sud de la ville. Je vais parler juste. Il y avait beaucoup de gens qui demeuraient à York dans ce temps-là, mais un particulier que je vais parler, c'est un gars qui s'appelait William Allen, qui était un des plus riches hommes dans le pays d'en haut. dans son temps. Et ceci est sa maison. La raison que je montre sa maison, c'est parce qu'il a appelé sa maison Moss Park. Et ceux qui connaissent le quartier, aujourd'hui même, le quartier Moss Park est associé avec beaucoup de pauvreté. Mais vraiment, cette maison a été bâtie sur un terrain qu'il y avait. Beaucoup du quartier lui appartenait dans ce temps-là. Et celui qui a pris la fortune de son père, c'était son garçon, George William Allen. George William Allen était le maire de Toronto à un point, est devenu un sénateur. Et en 1853, c'est un portrait de George William Allen. En 1853, il a donné 5 hectares de terrain qui est devenu Allen Gardens. Et on va parler beaucoup d'Allen Gardens parce que ça joue un rôle central. Aussi, dans les années de 1800, à partir de près de 1878, aller jusqu'au commencement du 20e siècle, un palais cristal a été bâti sur le terrain de Allen Gardens. Il y avait de la place pour au-dessus de 2500 personnes dans le palais. Et c'était une place où les élites, les riches de Toronto venaient pour jouer. Tout alentour du parc du Crystal Palace, étaient des maisons de millionnaires. Juste l'autre bord du parc, il y avait une église qui s'appelle, aujourd'hui elle s'appelle St. Luke's Church, qui appelait l'église des millionnaires. C'était une église méthodiste. Et alors, on avait toute cette richesse qui était là jusqu'à 1900, au commencement. Une église qui joue un rôle très important dans le quartier, on va voir encore plus tard, a été bâtie en 1874, s'appelle All Saints Church, une grosse église, à peu près 800 personnes. Voilà. Les paroissiens étaient riches qui allaient là. Ils vivaient dans les vieilles maisons, si vous visitez le quartier, des vieilles maisons victoriennes qui sont dans le quartier, on les voit quand on marche dans le quartier. C'est là qu'ils demeuraient, et c'est eux autres qui supportaient l'église. Le paroissien le plus fameux, c'était Johnny McDonald, qui était un paroissien là pendant un an de temps. Et aussi, George Allen était un gouverneur de l'Église. La prochaine personne dont on va parler, on ne restera pas longtemps sur ces personnes-là, mais c'était le pasteur Arthur Baldwin, qui était en charge de l'Église All Saints depuis le commencement, jusqu'au commencement du 20e siècle. Il a été éduqué à Upper Canada College, où les riches étaient instruits, et a aussi étudié à Oxford, en Angleterre. Dans la raison qu'on va retourner à Baldwin et George Allen, et l'église All Saints et Allen Gardens, parce qu'ils jouent un rôle central dans notre quartier aujourd'hui et à travers l'histoire du quartier. Et ils vont être les caractères centrales, comme on va dire, dans l'histoire que je vais compter. En 1902, le palais de cristal a brûlé, passé au feu. Et après la Première Guerre mondiale et durant la Dépression, les riches ont commencé à sortir du quartier, partir du quartier. Ils ont abandonné les maisons, tout ça. Et on va parler un peu plus de ça. On va retourner un petit peu. Un autre événement qui explique un peu comment est-ce que Skid Row, comment est-ce qu'on a eu les services dans le quartier, comment ils sont venus là, c'est qu'il faut comprendre que l'industrialisation de Toronto a commencé vers 1850. Le chemin de fer est arrivé à Toronto en 1852, et aussi la rivière Don était très proche de là. Alors, par exemple, en 1891, il y avait au-dessus de 2100 établissements avec proche de 25 000 employés qui était à Toronto. Beaucoup des usines étaient dans notre quartier, dans le centre-est de Toronto. Je vais vous montrer ça. Et ça, c'est un portrait du quartier au sud qui, dans le temps. Ça, c'est une des factories qui était là, Goodham & Wartz, dans ce temps-là. qui, à un point en 1866, employait à peu près 160 personnes. Faisait du whisky, tout ça. Mais le plus gros employeur dans le quartier dans ce temps-là, c'est en 1913, Consumer Gas Company. Ça, c'est un portrait du... Ça s'appelle Old Opera House, mais c'est une des bâtisses qui était là, qui est encore là aujourd'hui. Consumer Gas Company, en 1913, employait au-dessus de 1400 personnes. Alors, vous pouvez imaginer ces usines-là, et à un point, tous les travailleurs qui avaient besoin d'une place à rester, qui sont établis alentour des usines, qui le matin marchaient vers les usines. Et je vais juste lire un petit peu une quotation qui décrit un peu dans ce temps-là. Des rangs de maisonnettes étaient originellement bâtis par les industriistes pour loger les travailleurs, situés près des zones industrielles, souvent dans les sections sud de la communauté. Ces maisonnettes étaient rarement entreprenues par les propriétaires d'usines et en conséquence, les maisonnettes ont rapidement régressé. Les usines étaient surpeuplées et chaudes. Et il manquait de bonnes facilités sanitaires. Les machines étaient rarement inspectées et en résultat, des accidents sérieux se produisaient. La semaine de travail en moyenne allait d'entre 10 à 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Alors, à cause des usines qui sont arrivées là, comme je dis, on a des quartiers ouvriers qui sont établis. Je vais parler de deux quartiers, bien vite. Le quartier qu'on va parler le plus, ça va être le quartier de Cabbage Town. Mais je vais parler un petit peu avant du quartier qui s'appelle The Ward. Parce que The Ward a été établi en même temps un peu que Cabbage Town, quand les industries sont venues, parce qu'ils sont venus aussi un peu à l'ouest de la ville. Et The Ward était un quartier qui avait plutôt des immigrants qui parlaient pas l'anglais, les Polonais, les Chinois, les Italiens, beaucoup des Juifs qui venaient de l'Europe. Et ça a été établi, ça a commencé, on va dire, même 1850, 1860, aller jusqu'à après 1920. Mais en 1920, le quartier a commencé à disparaître et n'existe plus aujourd'hui. Et le quartier est juste à l'est de la ville, ceux qui connaissent Toronto, juste à l'est de la rue Yonge et juste au sud de la rue College. Et ça, c'est significant pour moi, mais qu'on parle de Cabbage Town, parce que la pauvreté qui existait dans la Ward était la même sorte de pauvreté qui existait aussi à Cabbage Town. Cabbage Town était... C'est un portrait ici de Cabbage Town, avant qu'on bâtisse Regent Park. Et Cabbage Town était les Irlandais, les Écossais et les Anglais qui ont demeuré là. Et commencé, on va dire, jusqu'à 1860 à peu près, en montant. Je vais décrire un peu la vie dans laquelle le monde vivait. Je vais commencer ici. La vie quotidienne voulait dire de s'ajuster des faits communs des existences de Cabbage Town. L'environnement terne taché par l'industrialisme, le ternissement apparaissait par les petites rues monotones pleines de maisonnettes bâties maigrement et qui ressemblaient à des boîtes. La plaie provenait de la saleté, des déchets et de la fumée des usines qui étaient tout près, leurs dompes et leurs charbons. Et ne pas oublier les parcs de bétail, les pensions pour chevaux, les granges pour les vaches et tous leurs déchets. Quelques-unes des infractions étaient drettes dans le quartier, mais d'autres coupables n'étaient pas loin, juste au sud, comme la puanteur des enclos de cochons de la grande compagnie d'embayage de viande de William Davis ou des bétails rassemblés de Goodman Warts qui mangeaient les vieux pâtés brassés. Un autre qui décrit le quartier. Avant de dire de décrire le quartier encore, il y a deux investigations qui sont passées entre 1911 et 1934 qui ont étudié les conditions sur les slums. Slums, c'est un mot qu'on comprend en français, oui, sur les slums de Toronto. Le premier en 1911, c'était Hastings, et le deuxième était de Bruce, Dr. Bruce. Et la première citation que j'ai lue, ça venait de Dr. Bruce. Et ça, c'est une autre citation de Dr. Bruce ici. Ils disent, « Notre survey des conditions de logement à Toronto a révélé qu'il y a des milles de familles qui vivent dans des maisons qui sont insalubres, verminous et grossement surpeuplées. La majorité de ces familles doivent vivre avec des murs qui sont humides ou des toits qui coulent. Les habitants ont souvent juste une chambre qui est chauffée durant l'hiver. Pas juste un rapport de visiteurs parle de toilettes, même de toilettes en dedans de la maison, qui est gelée pendant que la température froide, ou même les lavabos de la cuisine qui est devenu un morceau de glace. Des armées de rats, des invasions de punaises et de cafards qui ont infesté pas juste une maison, mais quelquefois toutes les rangs. Le surpeuplement d'une maison est une des plus sérieuses et pénibles traits des problèmes des quartiers pauvres. C'était habituellement associé avec la pratique de prendre des pensionnaires, souvent de nécessité financière, si le loyer était pour être payé. Ces conditions de Cabbage Town ont existé pendant, on va dire, pas 80 ans avant que la ville décide de faire quelque chose. Un autre rapport de Dr. Bruce. Dans Moss Park, à l'est de la rue Sumac, spécialement au-dessus de la ville de la rue Dundas, nous trouvons de grands bâtiments industriels mélangés avec les maisons. L'existence de leur bruit et leur odeur n'enrichit pas l'attraction des maisons. Sur la rue Marc, il y a une usine de textile qui marche 24 heures par jour. Les résidents ont à tolérer le bruit des machines et des camions jour et nuit. Sur la rue Queen, une grande brasserie s'imprime de manière nombreuse sur les environs. À l'est de la rue River, il y a le déconfort ajouté de l'odeur limitée de la rivière Don et des bruits fréquents du chemin de fer. Alors, on a une situation à Cabbage Town depuis les années 1960. Elle est deux grandes indications qui disent qu'on a un grand problème. Alors, la solution qui a été pour Cabbage Town, de Dr. Bruce, a été de démolir toutes les maisons et d'enlever les industries du quartier. Alors, dans les années 1940, on a commencé à Toronto un phénomène qu'on appelait le renouvellement urbain, qui a duré à peu près 20 ans. Ceci a vu le déplacement d'au-dessus de 10 000 personnes pendant ce temps-là. Et le problème de déménager ces personnes, la majorité qui étaient très pauvres, a été comparé à un problème humanitarien comme des famines et des guerres. C'était énorme. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'à commencement de la fin de 1940, on a démoli Cabbage Town et on a bâti ce qui est aujourd'hui qu'on appelle Regent Park, le plus gros logement social au Canada, je pense. Alors, en mars 1949, la première phase de Regent Park Nord est complétée. Et en 1957, le projet est fini. 31 bâtiments et au-dessus de 5000 personnes qui demeurent là. En 1955, la ville annonce qu'elle va construire Regent Park South, un autre 5000 personnes. Et en 1963, ils annoncent qu'ils vont bâtir Moss Park. Alors, dans notre quartier, on a le plus gros projet de logements sociaux, en fait, de Regent Park et Moss Park. Ça, c'est Moss Park, le bâtisse Moss Park, juste à côté de Regent Park. On va retourner à Regent Park à la fin. Alors, avec l'industrialisation de Toronto aussi, qui a amené beaucoup, beaucoup de gens à la ville, on a vu une situation où la ville était forcée d'adresser le problème de pauvreté. Beaucoup de gens ne trouvaient pas d'ouvrage, se trouvaient dans la rue. Et on a eu des maisons de pauvres qui ont été établies dans le quartier. Je vais juste vous montrer deux pour tout de suite, et on va en parler un peu plus dans une seconde. Ça, c'est la maison de province, House of Providence, qui a été établie en 1957 et fermée en 1962. Qui a été rené par l'Église catholique de Saint-Paul, mais c'était les sœurs de Saint-Joseph qui étaient en charge. Et ceci, ici, la maison d'industrie, bâtie en 1837 et fermée en 1948. La bâtisse est encore là. La maison d'industrie avait des liens très, très forts avec la ville. La maison d'industrie a été bâtie au commencement dans notre quartier, mais en 1848, elle a mouvé dans le quartier de la Ward, et c'est là qu'on la trouve maintenant. Avant de parler de la fonction des maisons pauvres, et je ne sais pas, l'expression en anglais, c'est « poor houses ». Je ne sais pas si la translation est aussi forte, mais pour comprendre un peu le rôle de York ou de la ville de Toronto dans ce temps-là, ou même de la province, je veux lui lire une quote. En 1792, le pays d'en haut a adopté les lois de l'Angleterre, mais ils ont mis une clause, une proposition à la fin, qui disait que rien dans cette loi doit introduire aucune loi de l'Angleterre qui concerne la maintenance des pauvres, qui est très significant, qui a eu un effet qui, aujourd'hui, moi, je dis, a un effet aujourd'hui même, en fait, de la manière qu'on voit les pauvres et le rôle de l'État qui s'occupe des pauvres. Alors, à cause de cette loi, l'abstination de cette loi, ça veut dire que les lois de l'Angleterre, je vais arrêter un peu, les lois sur les pauvres d'Angleterre, 1601, à l'entour de là, ont commencé là et on avait des centaines d'années d'histoire. Et c'est ça qu'ils ont rejeté. Alors, à cause de ça, ça a été les riches industrialistes qui étaient responsables pour les pauvres. Alors, les pauvres étaient dépendables sur les riches. En 1847, on a eu des milles et des milles d'Irlandais qui s'enfuyaient de la famine en Irlande. Beaucoup qui ont venu à Montréal, Québec, et beaucoup sont rendus à Toronto. Il y a une couple de réponses de la ville sur ça. Une est de la maison de Providence, qui a été formée à cause des personnes qu'ils voyaient dans la rue. Ça, c'est d'une lettre pastorale de l'Église Saint-Paul. Est-ce que nous pourrions pas donner de l'abri pour une couple de jours à les pauvres immigrants, en particulier les veuves destituées, mères et filles? Qui n'a pas vu ces pauvres immigrants an après an, sur les bateaux et dans nos rues, qui déchirent nos cœurs à la vue de nos semblables, qui ont été réduits à une condition apitoyable. Vous allez m'excuser un peu parce que j'ai fait la translation, puis la translation, des fois, était difficile un peu. Mais pas tout le monde pensait comme ça. Pas tout le monde voulait aider les Irlandais ou les autres qui se trouvaient. Ça, c'est 1857 dans le Globe and Mail. Les Irlandais qui quittent sont trouvés tout partout et ils sont ignorants et malfaisants comme ils sont pauvres. Ils sont paresseux, improvidents et sans reconnaissance. Ils emplissent nos maisons de pauvres et nos prisons. Ce préjugé et cette discrimination contre les pauvres, on la trouve tout partout dans l'histoire du quartier. En fait, des gens qui s'occupaient des pauvres. Beaucoup des gens ne voulaient pas des maisons de pauvres dans leur ville. Et ceci est un autre article en 1874. Quelqu'un était opposé à bâtir des maisons de pauvres. Donner aux pauvres sans discernement est mortel. Ceci est un procès évident de la fabrication d'indigents dont bons à rien et des improvidents. C'est de la fabrication des indigents. Une loi sur les pauvres est une machine de législature pour la fabrication des pauperismes. Pauperisme, c'est un mot, oui? OK. C'est la vraie pitié de dire que ce serait mieux que quelques individus mourir de faim qu'une classe d'indigents soit élevée des milliers de personnes dévouées au crime et des victimes de misère. très, très sévères, les préjugés. Et c'est dans ce contexte-là que ces maisons-là étaient là. Une des fonctions du... Les trois fonctions des maisons de... Je vais retourner ici. Il y avait trois fonctions avec les maisons de pauvres. La première, et les deux, la maison de Providence et la maison d'industrie, avaient une résidence. Alors, c'était plutôt des orphelins, des femmes qui avaient perdu leur mari, les âgés, donc il n'y avait pas de place pour s'en occuper. La deuxième fonction, qui était très importante, c'était qu'ils donnaient de l'aide en dehors de la maison. Qu'est-ce qu'on appelait dans ce temps-là? Ils appelaient « outdoor relief ». La maison d'industrie en particulier était très importante parce que c'est devenu un peu le système de welfare, comme on dit, d'assistance qui a commencé avec ça. Et l'autre importante fonction, c'est que les maisons de pauvres ont commencé à donner des logements aux vagabonds. Ils appellent ça des logements pour les casuels. On avait beaucoup d'hommes qui se trouvaient dans la ville, pas capables de trouver de place, alors ils étaient forcés à leur donner des logements. On va retourner à George William Allen et aussi à notre révérend, parce qu'ils ont joué un rôle central, et l'Église en Sainte a joué un rôle central, en fait, de l'opinion des pauvres dans le quartier. George Allen était... un administrateur de la maison d'industrie aussi, et aussi Reverend Baldwin, pendant une quarantaine d'années. George Allen, pendant 40 ans, était qu'est-ce qu'on appelle un ward visitor. Il était un visiteur de quartier. Sa job était de visiter les pauvres dans le quartier, de décider s'il était pour avoir de l'aide ou pas avoir de l'aide. Il faut imaginer que c'est un sénateur là, qui va... visiter les personnes pour décider si, oui ou non, quelqu'un est déservant. Et ce n'était pas la seule job qu'il avait, c'était aussi sa job d'encourager les pauvres de ne pas boire trop, de ménager. C'était leur rôle, pas mal. Ceci est la porte de la maison d'industrie. Je vais la garder là pour un instant parce que je veux... Je vais parler un peu du pasteur Baldwin dans une seconde. En 1873, il y a une dépression mondiale qui s'est passée, qui a duré à peu près 20 ans de temps, qui a causé beaucoup de pauvreté. Beaucoup de gens se trouvaient dans la ville, à travers l'Ontario, cherchaient de l'ouvrage, pas capables de trouver de l'ouvrage. Et c'est les quotations, les paroles que je vais vous donner sont durant cette période. Une des paroles est d'un administrateur assez grand en Ontario qui s'appelle J.J. Langmuir. Il a dit ça après 1890. Il dit « La ville de Toronto est la place centrale durant l'hiver pour les armées de vagabonds qui infestent la province. Pendant les mois d'été, ils s'éparpillent dans la région, pas trop éloignés de la ville, dans laquelle l'expérience leur a appris qu'ils veulent facilement gagner de l'emploi en faisant des petits jobs, en mendiant, en faisant du moradage. Et quand l'hiver s'approche, ils se préparent à retourner. Le pasteur Baldwin était très impliqué, en fait, de diviser des schemes, des manières de se débarrasser des vagabonds qui se trouvaient en ville. Parce que c'était la responsabilité de la maison d'industrie d'adresser ce problème-là. Alors, je vais lire le 13 de novembre 1890, Pasteur Baldwin a donné un témoignage sur l'enquête royale sur les prisons que M. Langmuir était en charge de. Et avec lui était George Allen. Et encore, je vous donne ces deux personnes-là parce qu'elles sont connectées à l'Église All Saints et ont joué un rôle majeur. Et on va voir que le rôle de l'Église a changé plus tard. Alors, je vais vous lire un petit peu les paroles de M. Baldwin. C'était le sujet des vagabonds en général dont nous sommes venus pour parler. Non, maintenant, notre difficulté est ceci. Nous sommes obligés de prendre les vagabonds chaque soir parce que nous ne voulons pas que ces personnes soit dans la ville de Toronto pour quêter pour leur logement. Il semble un grand dommage que ce monde peut avoir la permission d'aller en dedans et recevoir des logements dans les logements de casuels et de faire rien que couper un peu de bois, comme nous insistons qu'ils le fassent. L'hiver dernier, nous n'avions pas de cette sorte de travail comme nous désirions en raison de douceur de saison. On ne veut pas les envoyer en prison de Toronto parce que ce monde trouverait la prison 10 fois plus confortable que nos logements. Si vous les laissez s'amuser dans la prison, avec le système de flânerie qui existe maintenant, ça leur fait beaucoup de mal. Ces hommes sont comme des abeilles. Ils vont à travers le pays dans le temps d'été et ils sont une grande malédiction aux fermiers canadiens comme ils sont avec nous dans le temps de l'hiver. C'est la paresse qu'ils cherchent et non pas l'ouvrage. Je ne vois pas comment on peut se débarrasser d'eux si on continue à leur donner la charité, de les garder dans les logements confortables et de les laisser vivre dans la paresse n'est pas la manière de se débarrasser d'eux. L'histoire de l'Angleterre montre comment, dans le passé, tel homme ne voulait pas travailler si de n'importe quelle manière qu'il pouvait dépendre sur les autres pour leur support. Mais quand le test d'ouvrage a été appliqué, il n'y avait plus d'encouragement pour devenir des indigents. C'est M. Baldwin qui a introduit qu'est-ce qu'on appelait dans le temps « the work test », le test de travail, qui était la philosophie « si on donnait l'ouvrage aux vagabonds, parce qu'ils n'aiment pas travailler, ils vont s'en aller ». C'était une manière de se débarrasser d'eux autres. Alors, jusqu'en 1990, à peu près, les hommes qui allaient retrouver de l'aide à la maison d'industrie étaient obligés de couper du bois pour leur aide. Mais à peu près en 1995, la maison d'industrie a introduit le cassement de roches, casser des pierres. Et ceci a causé beaucoup de problèmes. Et quand j'ai trouvé une statistique qui m'a vraiment touché à un point, en 1995-96, 1200 hommes, quasiment deux tiers des hommes qui avaient cassé les pierres ont refusé de casser les pierres, qui est très significant, parce que c'est un mouvement. Ça nous montre que dans la maison d'industrie, il y avait une mood, il y avait quelque chose qui se passait. Parce qu'il faut comprendre que la minute que les hommes ont fait ça, on parle ici avec pas juste des hommes qui étaient seuls, qui n'avaient pas d'enfants. On parle ici des hommes de famille, parce que tout le monde était, tous les able-bodied étaient supposés de faire ça. Alors, il y avait quelque chose qui se passait, parce qu'en faisant ça, ils n'ont pas reçu d'aide. Et le fait qu'ils l'ont noté aussi est très important. Et je vais finir cette section en lisant un article qui décrit les conditions dans la maison d'industrie, qui est venue dans le Globe and Mail le 22 mars 1887. Est-ce qu'il y a des lecteurs qui n'ont jamais regardé dans les logements casuels de la maison d'industrie de cette ville après 9 heures du soir? Les logements casuels dont nous parlons ne sont pas des modèles de confort. Ils ne sont pas fournis avec aucun lit d'aucune sorte. Ils sont chauds et nets, mais les planches du plancher sont tout ce qu'ils ont pour lit et un rang de planches un peu élevé pour oreiller. Il y a un logement pour peut-être 120 ou 130, c'est-à-dire qu'il y a de la place sur le plancher pour ce nombre. Samedi soir dernier, il y avait 125. Il n'y avait rien d'anormal à propos de ce nombre. Il était couché épais comme des haringues dans un baril. Quelqu'un pouvait à peine bouger sans marcher sur eux. Peut-être parce que 30 à 40 dans chaque appartement, tout couché le mieux qu'ils pouvaient sur le plancher dur. Et qui sont-ils si ainsi entassés dans ce logement? Pour la plupart des jeunes hommes. Un autre établissement qui a été très important dans le quartier, c'est le Fred Victor Mission. Je ne parlais pas beaucoup de Fred Victor Mission, except ça a été établi en 1884. Un autre industrialiste, Art Massey, était associé avec Fred Victor et aussi était associé avec une église méthodiste qui est encore là, le Metropolitan Method, United Church. La philosophie de Fred Victor pendant 60-80 ans, était, en anglais, je vais le dire en français dans une seconde, soup, soap, salvation. So, soup, savon, salut. Extrême préjugé qu'on trouve et discrimination contre les hommes qui utilisaient Fred Victor. Et je vais juste vous en lire une coupe. Ceci du président de Fred Victor dans le temps. Qui décrit les hommes comme les clochards, les ivrognes, les damnés, les malheureux victimes de vice, de la paresse et de l'intempérance. Plus tard un peu, un autre superintendant qui affirme avec dégoûtement que la plupart des hommes qui viennent pour le souper le jeudi soir sont des indigents professionnels et des imposteurs qui prennent avantage de la générosité de la mission. Et un peu plus tard encore, Superintendent Fitzgerald, quel atroce spécimen d'humanité. Ils sont, en parlant généralement, les rejets de la société, des clochards, des criminels, des exclus, des carcasses, des vrais portraits vivants de l'atrocité du péché. Alors, on a, pendant ce temps-là, des établissements qui sont... renés par les églises et qui sont associés avec des industries qui sont très riches, des préjugés, des discriminations qui sont très fortes. Un petit peu plus tard, j'ai trouvé une couple de statistiques qui m'ont fâché. Ça fait assez fort. La practice à Toronto pendant des années de temps, c'était que les sans-abri pouvaient aller dans les stations de police pour avoir de l'abri. Et ça continua pendant la Première Guerre mondiale. En 1915, l'année après la Première Guerre mondiale a commencé, les stations de police ont rapporté que 10 589 personnes avaient été données logement dans les stations de police. Un an plus tard, 369 personnes. Où étaient les hommes? Et on sait. Ils ont été en guerre. Ces hommes, on voulait se débarrasser de ces hommes pendant des années. Alors, on a trouvé une manière. On a trouvé une guerre et on les a envoyés là. Beaucoup sont morts là. Alors, une autre statistique des prisons, des stations de police. En 1925, le nombre de personnes qui ont reçu des logements aux stations de police était 16 468 personnes. Le plus haut dans l'histoire. Et la majorité étaient des vétérans de la guerre. Alors, pendant la Grande Dépression dans le quartier, ceci est un portrait en 1830, une quarantaine de sans-abri qui s'avait établi dans la Down River. On avait aussi dans le quartier, dans ce temps-là, dans le temps de la Dépression, des sans-abri qui s'organisaient pour parler des conditions des auberges. Et aussi pour demander pour de l'emploi. Un nommé William Lyons, un vétéran de la Première Guerre, organisait dans notre quartier. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est dur à trouver cette histoire-là. Le 15 août 1933, au-dessus de 2000 personnes sont rassemblées dans le parc Allen Gardens. La majorité des vétérans de la Première Guerre qui demandent de l'aide, ils sont rassemblés là. Il y a quasiment eu un émeute. Après qu'ils ont mis un banner, comment on dit un banner en français? Une bannière, merci monsieur. Une bannière qui disait « Héros 1914, des bombes 1933 ». Ça a enragé la police. Aussi, qu'est-ce qui se passait dans ce temps-là? C'est que les sans-emploi s'organisaient pour arrêter les évictions dans le quartier. J'ai trouvé beaucoup de stuff dans le quartier un peu à l'ouest de là, de Etobicoke, Long Branch. À un point, les sans-emploi ont bâti une imitation d'un gibet. Et on dit qu'il était... un gibet. Et ils disent qu'il était pour prendre le shérif s'il venait. Ça vient d'un des organisateurs des sans-emploi. C'est ça. Edward Murphy, qui était un organisateur, dit « Les sans-emploi ne sont pas une bande de chiens qui vont s'enfuir avec leur queue entre leurs jambes parce que M. Hepburn ouvre sa gueule et distribue des mandats. » Humphreys continue. Après avoir décrit qu'il y avait un vétéran avec ses 5 enfants qui était venu chez lui vers minuit parce qu'il avait été expulsé de sa maison, il dit « Si les sans-emploi auraient su de ce cas comme je l'ai su, il aurait été là pour prévenir l'expulsion et toute la police et les mandats que vous voulez ne les auraient pas arrêtés. » Alors, les personnes étaient très militantes dans ce temps-là. Parlent très fort et souvent au-dessus de 200-300 personnes entourent une maison pour arrêter les gens. On va mouver un peu plus loin à cette heure. Et dans les années 1950, vraiment, l'idée de Skid Row, le Skid Row était bien, bien établi dans le quartier. Ceci est un portrait de Seaton House, la plus grande auberge au Canada dans le temps, peut-être encore, je ne sais pas, qui est dans le quartier, qui a été mis là en 1959. Et aussi, beaucoup des services, une infrastructure a été introduite dans le quartier dans ce temps-là.
C'est pour la traduction Skid Row, là, c'est comme le code postal le plus pauvre.
OK. Alors, il y a eu beaucoup de maisons de chambre dans le quartier. Il y avait des flop houses, on avait des auberges de jour, beaucoup, beaucoup de ça. Une infrastructure a été créée dans ce coin-là. Et deux choses sont arrivées en 1965, très importantes pour le quartier. On retourne à l'église All Saints. En 1965, l'église All Saints, les parts voisins étaient toutes parties. L'église était pauvre. Et Norm Ellis est arrivé à l'église. Il ne savait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, près de 6 ans plus tard? Ils ont déétabli l'Église. Ça veut dire qu'ils ont tourné l'Église en centre communautaire, qui était très significant pour notre quartier. Et beaucoup des agences qui existent aujourd'hui dans le quartier ont commencé dans l'Église. M. Ellis décrit ce moment dans un livre. Il dit « L'Église All Saints, solide comme une église victorienne de classe moyenne, de piété protestante, pouvait se faire, est devenu en vie dans la centième année de son existence. Dans le déestablissement, elle a trouvé la vie. C'était seulement quand on a ouvert les portes de l'Église chaque jour de la semaine qu'on a laissé la foule de pauvres et les sans-emploi entrer dans l'Église, s'asseoir et boire du café, que le Christ est vraiment entré dans l'Église. C'est assez important. L'autre chose qui est très significante, c'est que en même temps que M. Ellis est rentré, l'embourgeoisement du quartier a commencé. Alors, des maisons comme ceci, ici, pas ceux-là, mais comme ceux qui étaient des maisons de chambre, ont été achetées. On commençait à être acheté dans le quartier. Et alors, on a eu beaucoup de tensions entre les nouveaux professionnels riches dans le quartier et les pauvres qui vivaient dans les logements sociaux et qui vivaient dans les maisons de chambre et dans les auberges. Parce qu'au-dessus de 2000 lits d'auberges dans le quartier, beaucoup de services, encore beaucoup, beaucoup de tensions. Et cette tension existe encore aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un est là? Quelle heure qui est? Pardon?
Un heure et quart,
OK. Je vais essayer de... OK, on va aller un petit peu plus vite parce que si le monde a des questions. En 1994, un autre point significant pour notre quartier, et ceci, c'est de, un article du Toronto Star le 19 avril 1914. Des dépressions massives qui vont affecter tous les secteurs de la société vont, s'en viennent, a averti Paul Martin. On a dit aux provinces qu'ils ont 2 ans dans lesquels ils doivent compléter avec nous à la fin du procès. À la fin des 2 ans, on va ôter d'énormes montants d'argent de la structure fédérale provinciale. Alors, on a eu en Ontario des compressions énormes sur le bien-être social. Processus. Vous allez m'excuser parce que on m'a pris de l'Abitibi et on m'a transféré dans une langue anglaise. Puis vous êtes pris avec ça un petit peu. Alors, on a eu des. Ça a causé une pauvreté énorme. Je ne décrirai pas ça, mais le monde qu'on trouvait mort dans les rues, les expulsions, tout se passait. Et alors, c'est dans ce temps-là que la Conseil ontarienne a commencé à militer. On était avant ça, mais c'est vraiment là que ça va. Alors, je vais juste montrer un petit peu. Je vais passer assez vite avec ça parce qu'on reste à peu près 10 minutes. Mais juste pour comprendre qu'à ce point-là, l'église All Saints et Allen Gardens est devenue une place où les pauvres ont associé avec une résistance militante, très militante, qui a résonné pas juste dans notre quartier, mais dans d'autres quartiers à Toronto, en Ontario, au Canada, à travers le Canada, c'était des manifs. Ça, c'est une manif de Allen Gardens où on s'en allait pour prendre une squat. Ça, c'est la démo devant la bâtisse qu'on a essayé de prendre. Ça, c'est une presse de conférence juste au sud du lac, une place qui s'appelait Tent City, où une centaine de sans-abri avaient squatté le terrain de Home Depot. Avaient bâti des maisons, pas aussi belles que M. William, mais ils avaient bâti des maisons. Un groupe qui s'appelle le Toronto Disaster Relief Committee a travaillé avec eux autres après 1 an et demi, 2 ans de temps pour essayer d'arrêter l'expulsion. La Coalition ontarienne a pris le parc Allen Gardens pendant 3 jours pour demander des logements sociaux, pour arrêter l'harcèlement des sans-abri. Ça, c'est des portraits. Le 15 juin 2000, on a eu une grande manif qui a parti de Allen Gardens, qui a marché à Queen's Park. Il y a eu une grande confrontation qui a duré à peu près 45 minutes. Cette démonstration a parti du quartier. Ceci est un portrait en dedans de l'église All Saints, au-dessus de 400-500 personnes qui se préparent pour aller prendre un autre squat, le Gatekeeper Squat. C'est là qu'on a marché de là, dans le quartier. L'autre chose aussi qui se passait en même temps des compressions, c'est que l'embourgeoisement du quartier est devenu encore plus intense. Alors, qu'est-ce qu'on a eu pendant la crise de logement qu'on a eu dans le quartier? Le gouvernement fédéral a vendu des bâtisses. Comme ça, celui-là ici, qui est un hôtel aujourd'hui, appartenant au gouvernement fédéral. Ceci, c'est le vieux building du RSMP, a été vendu aussi à une chaîne d'hôtels. Ceci, c'était le terrain de CBC Radio qui était dans notre quartier, qui a été vendu aussi. La ville aussi vendait des bâtisses. Ça, c'est une des deux prochaines places. C'est des places qu'on a squattées pour demander que la ville ne les vende pas. Sur la rue Jarvis, la ville vendait des bâtissements dans le milieu de la crise. Aussi, on a eu des grands développements qui se passaient dans ce temps-là. Ça, c'est Dundas et Sherbourne, Dundas et Young, Dundas Square, qui a été gentrifié et qui est à peu près à 5 minutes de Dundas et Sherbourne, qui a mis beaucoup, beaucoup de tension, en fait, de la gentrification du quartier. Dans le quartier, vous allez voir beaucoup des maisons qui étaient des maisons-chambres qui ont été gentrifiées. Ça, c'est une des maisons. Ça, c'est juste en arrière de Seaton House, où 500, 600 hommes restent à chaque soir. On a eu aussi, au sud du quartier, beaucoup de projets de condos. Ça, c'est un des premiers. Au nord de là est un centre d'auberge de Maxwell Megan, Salvation Army, de 400 personnes. French Quarters, qu'on appelle ici le condo, juste à côté de Fred Victor. et aussi au sud, un autre auberge. Ici, j'appelle ça le Goodwill Condo. C'est un bloc que Goodwill avait, qui ont vendu dans le quartier, et ça va être le plus grand condo dans le quartier qui va être bâti jusque-là. Dans le quartier aussi, vous allez voir, ça c'est juste l'autre bord de la rue du Salvation Army, de Queen et Sherbourne. On voit la vieille hôtel, le Canada Hotel. En haut, il y avait des chambres, une vingtaine, trentaine de chambres que des hommes, la majorité des hommes utilisaient, qui sont partis. Alors, on voit ça disparaître comme c'est là. On voit les enseignes qui disent un condo qui s'en vient là. Beaucoup des centres de café qui sont ouverts 24 heures sont fermés par les résidents parce qu'ils ne veulent pas avoir ces services-là dans le quartier. Alors, cela est fermé à ce temps, n'existe plus. Tent City, je vais passer. La ville, il y a 2 ans, a commencé à fermer les auberges. Au-dessus de 300 lits d'auberges, 5 auberges majeures ont été fermées dans les derniers 2 ans. Je vais parler pas tout de suite, mais si le monde veut parler un peu du projet Streets to Homes, qui est le projet de la ville maintenant, je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure. Un autre auberge qui a été fermée, 60 Richmond, par la ville. Regent Park, on a parlé de ce qui est arrivé à Cabbage Town dans les années 1940, qui ont tout démoli. Aujourd'hui, ça a commencé il y a 2 ans, je pense, voilà. Regent Park va être tout démoli, à grandeur. Ils vont bâtir ils appellent un « mixed neighborhood », et vraiment qui est avec des condos et des logements sociaux. Mais vraiment, cette idée de « mixed neighborhood », est une manière vraiment de la ville de payer pour la construction de logements sociaux parce qu'ils n'ont pas l'argent ou aussi pour réparer les logements. Et l'idée d'un mixed neighborhood est vraiment utilisée dans les quartiers pauvres. Rien à faire d'un quartier comme Rosedale, Mount Forest, où il y a beaucoup d'argent. On ne dit pas qu'on devrait avoir il y a trop de riches dans une place. C'est pour les quartiers pauvres. Les deux dernières photos, je vais finir. Ça, c'est une photo de la ville. Et on est dans Moss Park. La maison de William Allen aurait été peut-être à 100 pieds de là, peut-être. Et c'est ça qui nous regarde. Dans le premier carré rouge que je vous ai montré, quand on regarde là, très haut, c'est ça qu'on voit, nous autres. Et c'est à 5 minutes de ce qu'on est. La dernière photo que je finis avec, c'est une photo de l'église All Saints. Et d'une manif qui sortait de l'église pour récupérer, pour aller chercher une bâtisse pour des logements sociaux. Et la raison que je finis avec ce portrait-là, c'est parce que pour moi, elle montre vraiment cette transition de l'église qui, à un point, appartenait à George Allen, à qui le quartier appartenait. C'était son église. Il avait beaucoup à faire avec la maison d'industrie. Beaucoup à dire avec M. Baldwin, et la transition de l'Église en centre communautaire en 70, et à la fin, dans les années 80-90, où l'Église est devenue une place où les pauvres sont mobilisés pour se combattre contre la pauvreté dans laquelle ils vivaient. Je vais arrêter là. Je ne sais pas si Hélène est ici. Non, OK. Ça fait que je vais arrêter là. Si les personnes ont des questions, je vous invite à faire ça.
Merci, M. Héroux, de votre conférence. Mon nom, c'est Raymond Lambert. Je voudrais savoir, présentement, à Toronto, qu'est-ce que vous faites pour pallier à tout ça? Qu'est-ce qui se passe présentement? Là, vous nous avez parlé beaucoup de l'histoire passé, mais présentement, dans le présent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des moyens qui sont faits concrets? Est-ce que vous préconisez des mesures palliatives ou des mesures curatives par rapport à l'itinérance, par exemple?
Bien, qu'est-ce qui se passe dans le quartier maintenant? C'est que depuis 2005, la ville a introduit un nouveau projet qui s'appelle Streets to Homes, qui déplace les sans-abri du centre-ville et les déménage dans les banlieues, souvent dans des logements sociaux qui ne sont pas réparés, que personne ne veut. Alors, on essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Et vraiment, immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Nous autres, on a de la misère à se débattre parce que le problème est très grand. Moi, de mon opinion, on perd la lutte. Et je crois que ce quartier ici, donc on vient de voir un petit peu, dans 5 à 10 ans, peut-être va disparaître. Que cette histoire de, donc on vient de parler, les pauvres vont être déplacés dans les banlieues, tout probablement. Le Skid Row qui était là ne serait plus là. Et la seule chose qui peut changer et qui va vraiment peut-être changer les affaires, c'est que cette crise économique qui existe maintenant va arrêter le développement à beaucoup de places, peut-être même dans notre quartier. Et alors, on va voir, comme on a vu dans les années 90, des milles et des milles de personnes se trouver dans la rue, se trouver dans les auberges. Et la différence maintenant qui existe, c'est que quand on a eu les grandes récessions en 80, au commencement de 80 et après ça, on avait une infrastructure, mais l'infrastructure est partie. Hein? Quand le monde tombe sur l'assurance chômage, il tombe sur le bien-être social, c'est assez vite. Et alors, le monde va tomber bien, bien plus vite. Et vous demandez, comme c'est là, on essaie de s'organiser sur ce problème-là. Oui. Et juste pour aussi, on a toujours, nous autres, dans l'organisation, travaillé sur une philosophie d'action directe. On travaille avec d'autres groupes qui utilisent d'autres manières de travailler, que ça essaye d'aller parler aux politiciens et tout ça. Mais à la fin, nous autres, on croit que la manière, c'est de mobiliser, de s'organiser dans le quartier et d'une manière qui
Bien, vous faites très bien, parce que la pauvreté, ce n'est pas un vice, c'est agréable.
Oui, pardon, c'est...
Vous faites très bien, parce que la pauvreté n'est pas un vice, c'est agréable.
C'est vrai, c'est vrai.
Merci. Okay.
Moi, je vais juste te rappeler un petit peu d'histoire récente. Moi, quand j'étais ici, il y a peut-être des gens qui se souviennent qu'il y avait une place qui s'appelait Overdale, dans le centre-ville. C'est-à-dire qu'il y avait des musiciens, Rhythm Activism, là, des gens qui faisaient de la musique engagée. On avait fait une marche, puis tout ça, puis ils voulaient démolir tout Overdale. Puis, ils en ont démoli une partie pour faire un stationnement. Puis, mais on avait fait une marche pour aller prendre un squat. Et puis, c'était pas connu, mais là, on est passé par un building historique. On l'a pris. Puis là, le maire nous a donné, en échange, je dis, il voulait pas nous avoir dans le centre-ville, tu sais. Fait qu'il nous a donné une espèce d'ancien hôpital ou de centre d'accueil pour les personnes âgées. Et puis... c'était juste sur Rachel, là, en face du... C'est ça, le squat Préfontaine. Mais cette année-là, alors là, moi, j'étais là un mois. Puis cette année-là, j'ai abouti à Vancouver. Puis on a parti le squat...
Woodsworth.
Là, il y a eu ce squat-là. Il y avait Vancouver. Il y avait le Pope Squat.
À Toronto, oui.
Il y avait un autre à Halifax. Il y avait des squats dans toutes les grandes villes à travers le Canada. Puis là, au mois de novembre, décembre, là, Ça devait être une décision politique. Pour moi, il y avait peur qu'on obtienne des droits de squat comme il y a en Europe. Ils ont tous fermé systématiquement un après l'autre.
Tent City aussi, dans ce temps-là.
C'était été fermé cet hiver-là?
Dans ce temps-là, oui, juste avant le Pope Squat. Oui. En tout cas, c'est vrai.
Il y avait quelque chose que tu disais tout à l'heure, là. Ça va me revenir. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose?
Oui, mais juste pour les actions de squat, par exemple. Aussi, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui aussi, c'est moi, je travaille, ça fait une vingtaine d'années, je travaille dans les agences sociaux. On voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Le monde, on a bien, bien de misère moi, à faire mes confrères, de parler de ce qui se passe. Et moi, je trouve que c'est notre obligation de parler de ce qui se passe. Numéro un, qu'est-ce qu'on voit? La misère qu'on voit chaque jour, les personnes qui viennent à nos agences, tout ça, le monde qu'on rencontre dans la rue. On est obligé de faire ça. Mais aussi, il faut avoir cette discussion sur la charité et versus la responsabilité de l'État. Parce que, comme on a vu, direct au commencement du pays d'en haut, ils ont rejeté une longue histoire en Angleterre sur la loi des pauvres. Ils ont rejeté ça juste comme ça, dans deux secondes. On crée un État où aujourd'hui même, par exemple, l'agence dans laquelle je travaille, de plus en plus, les agences sont expectées maintenant de trouver des fonds en dehors du gouvernement. C'est expecté, comme United Way aussi, c'est leur rôle. Et en faisant ça, pour moi, ça diminue le rôle de l'État. Parce qu'il y a certaines choses que l'État est responsable et doit s'occuper. Et les logements sociaux sont un. Il faut que le monde ait assez d'argent pour survivre. Il y a beaucoup de choses, la santé, l'éducation. Il y a des choses que c'est pas transférable. Il faut. Et on a appris dans l'histoire qu'on voit que dans les années 1930, que ça a été gagné par des luttes, des vraies luttes.
J'aimerais ramener l'histoire récente à l'actualité. Puis je comprends pas. On est supposé d'avoir un maire qui se dit, en tout cas, que nous, on pensait progressif, là, il était un peu un... En tout cas, après Nelson Lassman, il n'y avait rien...
Tu parles de David Miller, oui.
David Miller. Là, il y a Allen Gardens, on a fait un... Quand ils sont fait tabasser là, pour une manifestation qui a commencé pacifique, ce que tu parlais tantôt, là, tout le monde s'est retrouvé à Allen Gardens, puis à tous les vendredis, Auriel Vargas... Et Ilan O'Hayan ont commencé un camp-out tous les vendredis, dans la nuit du vendredi à samedi, puis après on allait déjeuner. Bon. Mais c'était un endroit pour faire du réseautage. Les gens pouvaient parler de ces sujets-là, puis tu sais, comme, qu'est-ce qu'on fait, puis comment on avance, puis tu sais, c'était un lieu de rencontre, comme ce qu'on fait là, l'état d'urgence sur le bord de la rue. Tu t'en viens de nous voir, hein?
J'étais hier.
OK. Ah, je t'ai pas vu. Mais tu reviens, nous? Hein?
Je revenais.
OK. Fait que là, c'était quoi? Ça a duré 2 ans. Tous les vendredis, des ressources, tout ça. Puis à un moment donné, je savais pas, j'ai appris d'Angela que ça a été fermé.
C'était assez brutal, oui.
Brutal?
Oui, par la police, oui.
Puis Ilan, puis Auriel... Ils ont reçu ils sont en train de se battre en cours. Puis là, leur procès s'en vient, ça va durer...
Commencement décembre.
Combien ça dure? Ça dure...
Ça commence au 8 de décembre.
Oui, mais ça dure un certain temps, là. Puis, ben, tu penserais qu'avec cette nouvelle administration-là, soi-disant verte, they want to appear to be green, really. But, ben, on peut peut-être les encourager à vraiment faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire, là, mais comment ça se fait? Why didn't they drop the charges since? Ça donne quoi, là, d'oppresser du monde qui travaille pour l'amélioration des conditions du monde?
Non, d'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je vais essayer le monde aller. Oui, OK.
Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de la décision qui a été prise... à Victoria par rapport au droit d'ériger des tentes dans les parcs?
Écoutez, ils ont dit que les gens avaient le droit de camper dans les parcs. Je pense que c'est le juste de ça. On a des lois. C'est bon, tu sais, qu'on a une réflexion, que quelqu'un dit qu'on a le droit. Moi, c'est pas le droit de vivre dans un parc que je veux, c'est le droit d'avoir des logements sociaux. On commence avec ça, c'est toujours bon. Mais aussi... il y a beaucoup de lois que les gens, les itinérants et les sans-abri ont dans le quartier qui sont brisées à chaque jour. On n'a pas les ressources pour défendre les gens qui se font intimider, battre, mettre en prison pour rien. On n'a pas les ressources pour arrêter ça. Et quand on parle de ces sortes de droits-là, c'est des droits qu'ils sont aussi forts que la protection qu'on peut leur donner. Et c'est juste, pour moi, les gens qui ont les ressources, qui peuvent se débattre contre ça. Moi, la loi est là, mais le lendemain, qui c'est qui va arrêter une police de dire « ta loi, ouais, si tu ne pars pas, je te crisse une volée hein? ». C'est simple.
Oui, mais il y a quand même eu une jurisprudence qui s'est établie avec cette cause-là. Donc, il y a quand même espoir que s'il y en a qui veulent poursuivre...
Oui, mais je pense qu'il y en a... Je pense qu'il y a un rôle pour le mouvement à gauche de se débattre sur ce bord-là. Mais sans avoir sans gagner les grosses batailles, comme les batailles sur le logement social, sans gagner les grosses batailles sur le problème d'income, sans gagner ces grosses batailles-là, avoir le droit d'aller quêter dans la rue, nous autres, on lutte contre ça parce que à cause de l'harcèlement, l'intimidation, mais à la fin, moi, je lutte pas pour que le monde ait le droit de quêter dans la rue. Je lutte pour montrer au monde. On a du monde qui quête dans la rue. Il faut demander pourquoi que le monde quête dans la rue. Et je pense que si on en fait la loi de pourquoi est-ce qu'on a quelqu'un qui a le droit de coucher à Island Gardens maintenant ou à Victoria, pourquoi qu'il est là? C'est ça notre rôle, moi, que je pense.
Okay. Donc, ce sera à d'autres de prendre ça.
OK, merci. Oui?
Oui, bonjour. Yvon Couillant, directeur d'un organisme communautaire auprès des personnes séropositives itinérantes. Moi, c'est juste un commentaire. J'ai bien aimé votre exposé. Puis qu'est-ce que ça me dit aussi, c'est que faut non seulement se battre, pas seulement pour un quartier, mais pour tous les quartiers. Parce que je pense que c'est un droit d'avoir un logement, mais aussi c'est un droit d'aller rester là où on veut. Je sais qu'au Québec, je ne sais pas si en Ontario c'est comme ça, mais nous, on s'était battus aussi pour responsabilité de toutes les municipalités, tous les arrondissements à Montréal, si je prends juste Montréal, pour qu'il y ait du logement social, et aussi même de pénaliser, que le gouvernement pénalise les municipalités qui ne veulent pas mettre sur leur territoire du logement social, parce qu'il y a ça aussi. Il y a une gentrification locale des quartiers, mais il y a aussi, il faut parler aussi de plus en plus d'une gentrification de villes. Moi, je n'accepte pas les ghettos pauvres, mais je n'accepte pas non plus les ghettos de riches, où on va dire, mais pour venir habiter sur la rue ou dans cette ville-là, il faut que tu aies un certain revenu, 50 000, 100 000, 150 000, il faut que tu aies même telle voiture. Alors, il y a ça aussi, je pense, qu'il faut se battre. Il ne faut pas nécessairement... se battre juste pour une localité ou un quartier ou un bout de rue, mais il faut se battre pour l'ensemble des rues, l'ensemble du territoire, pour que les gens puissent aller rester. Parce que souvent, c'est ça aussi, les gens se concentrent dans un quartier parce qu'ils n'ont plus le choix. C'est là qu'est donné le service, mais aussi, il y a des municipalités qui ne prennent pas nécessairement leurs responsabilités. Puis c'est du monde, comme on dit, qui viennent d'un quartier, d'un village, qui ont eu un père, une mère, qui ont eu des amis, puis souvent, ils ont été exclus parce que, bon, ils ont perdu leur emploi. Puis là, ben, si tu perds ton emploi, tu ne peux plus rester dans ce bout de rue-là.
Non, c'est vrai. Juste une quick réponse à ça. Je me rappelle quand j'ai été rechercher l'histoire du quartier, et parce qu'il y a beaucoup de préjugés, de discrimination en ville maintenant. Je n'ai pas parlé beaucoup, mais en fait, de ce qui se passe, en fait, de la lutte contre les personnes qui quittent dans la rue, encore beaucoup, beaucoup d'haine qui se passe. Et quand j'ai retourné dans l'histoire du quartier, j'ai vu que cette discrimination, ces préjugés, ils sont très vieux. Ils ont une base là, qui est très creuse contre une classe de personnes, contre les pauvres, qu'on trouve immédiatement quand on commence à trouver ça. Et ça m'a fessé très fort, en fait, quand j'ai commencé à voir ça, parce que ça résonnait, ça résonnait. Je lisais ce passage-là, je dis, et c'est aujourd'hui, j'aurais pris des exemples aujourd'hui qui disent la même chose, comme vous venez de rencontrer, on ne veut pas de logement social dans nos quartiers, etc., etc., et ça rempire. Je me rappelle que ça m'a fessé très fort.
Pierre Gaudreau, je travaille avec Bonjour, le réseau Pierre. D'aide aux personnes seules itinérantes de Montréal, le RAPSIM, qui est un regroupement de 86 groupes qui travaillent avec les sans-abri. Je trouve ça intéressant, la présentation sur l'histoire ouvrière et populaire de Toronto et les luttes qui s'y mènent. Tu parlais tantôt, il y a un programme qui est en développement à Toronto, Streets to Home. Oui. Tu parlais, on prend des gens, on les envoie en banlieue dans des logements sociaux en mauvais état. C'est un programme qu'à l'heure actuelle, le gouvernement fédéral essaie de promouvoir ailleurs au Canada. Ils vont investir de l'argent, entre autres, pour développer ce projet-là à Montréal. J'aimerais ça...
Ça s'en vient.
Ouais, j'aimerais ça... l'argent est prévu, là. Il y a un budget pour Montréal clair, là, qui a déjà été voté puis qui existe, puis ils ne reviendront pas là-dessus. Pas sur ce programme-là. Donc, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. Puis, si j'ai bien aussi compris, tu parlais qu'il y a eu des auberges ou des refuges qui ont été fermés dans les dernières années à Toronto. Oui. Où vont les personnes? Puis peut-être aussi commenter... Quelques commentaires sur le plan d'action de Toronto. Je pense que de la ville de Toronto, il y a un plan pour agir sur la question des sans-abri. Comment vous le voyez, ce plan-là? Quel résultat positif ou négatif, ça a?
Si vous me permettez, juste sur le programme de Streets to Homes, que c'est vrai qui est introduit à travers le Canada, Victoria. Le projet vient des États-Unis. Phil Mangano, qui est le czar des sans-abri de M. Bush, vient de là. Il a été introduit à la ville de Toronto en 2005 avec un maire qui est supposé d'être très progressif. Il n'est pas progressif. Et vraiment, il y a deux choses qui se passent avec Streets to Homes. Une des choses qui se passe, et la question qu'on se demande toujours, c'est que la ville, à chaque fois qu'on parle des sans-abri, a dit, écoutez, on a donné des logements à 1500 abris, ils ont du support, tout va bien. Ça, c'est la réponse officielle. Mais nous autres, on se demande aujourd'hui encore, comment est-ce qu'on peut donner des logements sociaux à des sans-abri sur le bien-être social, sur cet argent-là, numéro un, et deux, sans bâtir de logements sociaux. Parce que nous autres, on n'est pas venu à bout de figurer une formula dans les 13 ans, là, depuis ce fait, qui marche. La ville dit ce qu'ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'on trouve maintenant, c'est que la ville déplace beaucoup de ces gens-là, les déménage dans des logements privés, souvent qui sont des slumlords. On rencontre le monde, on dit des pockets, peut-être 20, 25 personnes. Et les gens sont abandonnés là avec très peu de support. En même temps qu'ils font ça, ils sont en train de détruire l'infrastructure qui a été créée au centre-ville. Juste retourner un peu à la question d'avant, c'est pas par hasard que tous les services, beaucoup des services au centre-ville sont dans la ville de Toronto, qui s'appelle la ville de Toronto avant, ou dans le centre-est. Parce que les autres banlieues, North York, Etobicoke, Scarborough, ne voulaient jamais de ces services-là. Ils n'ont pas, il y a pas beaucoup de services dans cette boîte-là. Alors, ils sont efforcés là. Alors, la ville est en train de détruire cette infrastructure qui était là. De deux ans, ils ont démanché au-dessus de... Ils ont ôté cinq auberges majeures dans le quartier, qui étaient dans le quartier. Mais aussi, avec le projet de Streets of Homes, on a eu intensification... La police est plus agressive, en fait, de pousser le monde en dehors. Ça fait que l'année passée, on a eu un record au-dessus de 10 000 tickets qui ont été donnés sur ce qu'on appelle le Safe Streets Act en Ontario, qui criminalisait pas les personnes pour ça veut dire des centaines de milliers de dollars qui ont été en fond d'argent contre les sans-abri. Ça fait qu'on a beaucoup de répression. On essaie encore de comprendre. On rencontre beaucoup de gens qui reviennent au centre-ville parce que quand ils déménagent le monde du centre-ville, ils déménagent, c'est leur support est là. Alors, ils déménagent le monde au centre-ville. Alors, le monde se trouve à une heure et demie en dehors de la ville. Tous les docteurs qu'il y avait, les gardes malades étaient dans notre coin. Pas de transportation. Toutes les soup kitchens, les banques alimentaires étaient dans le quartier, la majorité. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit le monde qui retourne au centre-ville, qui sont forcés de quitter dans le centre-ville. On voit aussi des gens qui abandonnent leur appartement parce que souvent, on les déménage dans des quartiers qui ont des problèmes déjà. des programmes sévères de drogue et de gangs, tout ça, et ils ne connaissent pas le quartier. Alors, déjà, moi, j'ai un gars, je viens de raconter, qui a abandonné son appartement, il demeure à Seaton House, comme c'est là. Puis là, il essaie de savoir où est-ce qu'on va, comme c'est là. L'histoire est un peu plus longue, parce que nous autres, ça a pris du temps à comprendre ce qu'il faisait, parce que c'est dur à dire non à des logements, hein? On ne peut pas dire non à des logements. Mais il faut penser un peu, ça vient du gouvernement fédéral qui embrasse, M. Harper embrasse ce projet-là. Au niveau fédéral, provincial, la même chose. Et aucun de ces provinciales et fédérales bâtissent des logements sociaux. Provincial, pas d'augmentation sur le lien social. Fédéral, pas d'augmentation sur le EI. C'est bien, bien plus cheap de faire ça de cette manière-là. Mais à la fin, c'est impossible d'adresser ça. Ça ne peut pas adresser le problème parce que le monde n'a pas d'argent. J'ai visité des maisons. Une femme, pas de manger. Deux semaines après, pas de manger dans sa chambre. Toutes ses amies sont dans le centre-ville, à Dessin, à Port. Ça ne marche pas. Excusez.
Bonjour.
Bonjour.
Excusez-moi, je suis étranger depuis peu au Canada. Donc, ma question, c'est la pauvreté. Est-ce qu'elle n'est pas exagérée, cette pauvreté? Parce que sommes-nous au Canada, vraiment, quand on parle de pauvreté, oui, pour quelqu'un qui vient de l'étranger? Peut-être qu'elle est exagérée. Donc, c'est ma première question.
Oui.
Ou bien entretenue, quelque part. Ma deuxième question, qui va être un peu déplacée par rapport au thème. Il y a une forte immigration au Canada.
Pardon?
Il y a une forte immigration, très forte immigration. Donc, est-ce que c'est pas par rapport à la pauvreté? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'occuper de la pauvreté si elle est vraiment importante que d'accepter une forte immigration? Ça, c'est un questionnement. Oui.
Bon, moi, je suis d'accord.
D'étrangers.
Je suis d'accord avec l'acceptation de plus d'immigrants qui sont pauvres et qui viennent. Je n'ai pas de problème avec ça du tout. C'est important d'avoir des gens qui viennent. Et l'immigration, maintenant, fait exactement le contraire. Hein. Elle prend les plus riches dans les pays et rejette les autres. Ça, c'est numéro un. En fait, de pauvreté, est-ce qu'on exagère? Écoutez, moi, quelqu'un qui a faim, il a faim. Hein? Je pense qu'un pauvre qui n'a pas à manger dans... You know, que ça s'aille en Chine ou aux Indes ou... On marche toute la même manière. On a faim. On a frette. On sent toutes les ça sent ça. Peut-être qu'il y a des degrés. Mais moi, les trois hommes qui sont morts en 1996 à Toronto, qui ont gelé à Toronto, sont morts, ils sont gelés. Un est mort avec de la malnutrition. Il s'appelait Marcellus Campani. Il est mort juste au sud de la ville. Ces hommes-là sont morts. Une mort aussi atroce que d'autres places. Paul Crouch, qui a été battu par les trois réservistes de l'armée canadienne en 2005, à Moss Park, a été battu à cause qu'il était sans-abri. Cette mort aussi affreuse que ça, c'est ma réponse. Je pense qu'il y avait une... OK, on va...
Gender balance?
C'est bon, on va...
Salut Gaëtan, je suis Bonjour. Nathalie.
Bonjour Rech. Nathalie, oui, on se parle.
On se parle souvent, puis on ne s'était jamais vu. Je suis contente de te voir. Ma question, en fait, c'est plus un commentaire, parce que la situation que tu décris d'ici, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de housing first, puis on est très inquiet de voir cette tendance-là arriver, qu'on nous dise qu'on veut absolument donner un logement pour faire disparaître les gens des rues, mais en même temps, on ne veut pas non plus investir dans le logement. Donc, on ne comprend pas très bien comment, rationnellement, ça peut marcher. Mais je suis contente de constater que ce que vous voyez, c'est que ça ne marche pas. Je ne suis pas contente, mais bref, je veux dire que rationnellement, ça me rassure. Donc, ça veut dire qu'on doit continuer à se battre, je pense, contre cette approche-là qui veut absolument cacher les problèmes sociaux, puis comme on faisait avant, en ouvrant des refuges pour dissimuler les problèmes. Puis sur l'immigration, le monsieur parlait de l'immigration juste avant, les refuges de Montréal voient une grosse augmentation des populations immigrantes dans les refuges d'urgence de nuit, particulièrement les hommes et des gens qui arrivent... carrément de l'aéroport, qui vont dormir dans les refuges, référés par les ressources d'immigration qui débordent. C'est inquiétant aussi pour nous de voir que c'est le seul accueil qu'on est capable d'offrir à des gens qui viennent de pays où il y a un niveau de vie inférieur à celui-ci. Je ne suis pas sûre que ça les rassure beaucoup sur leur avenir dans leur nouveau pays d'accueil. Fait que c'est ça. C'était mes commentaires. Merci.
Juste deux petits points. Sur l'immigration, je me rappelle, moi, je travaillais à Maxwell Megan dans les années 90. Et je me rappelle exactement ça, où des fois, il y avait 20-30 de personnes qui venaient juste d'arriver à Toronto, sortaient de l'avion, qui étaient dans les auberges. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué depuis les dernières 5-6 ans? Il y a des personnes, mais à cause des nouvelles lois, qui est très difficile à cette heure pour quelqu'un pour clamer un statut de réfugié au Canada, ça a diminué en fait de personnes moi que je vois. Pas parce que, peut-être qu'on voit c'est le contraire aussi, mais je pense que les lois ont vraiment coupé beaucoup de ça, en fait, de qui vient. En fait, de Streets to Homes aussi, juste le dernier point, c'est que c'est la responsabilité des agences, comme vous, des agences, des groupes, de parler et de dire qu'est-ce qui se passe. Et à Toronto, la ville a le contrôle des agences parce que c'est eux qui donnent les fonds. Parce qu'à Toronto, les fonds de HIPPI sont contrôlés par la ville. Et qu'est-ce que la ville a fait? Elle contrôle les fonds et les fonds vont vers Streets to Homes. Et les agences qui parlent, il n'y a pas qui parlent, si tu parles contre Streets to Homes, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Les agences qui essaient de faire ça. Alors, nous autres, même dans l'agence dans laquelle je travaille, Street Health, notre directeur est sur un comité de Streets to Homes. Ils ont emmené les directeurs, pas les travailleurs, mais les directeurs dans un comité pour Streets to Homes. Et on ne peut pas parler de Streets to Homes dans nos staff meetings. C'est trop controversial. On ne peut pas... Et c'est ça qui se passe. Et j'espère qu'au Québec et dans d'autres villes, vous pouvez créer un forum en dehors. C'est ça qu'on a essayé de faire une couple de fois. On a essayé de créer un forum en dehors des agences, inviter les travailleurs pour commencer à parler un peu parce qu'ils ne peuvent pas parler de ce qui se passe. Informellement, souvent, je parle aux travailleurs qui disent « c'est fou, ça ne marche pas ». Même des travailleurs qui travaillent pour Streets to Homes, qui se tirent les cheveux, qui disent hey, « c'est fucké ben net, ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire ?» Des fois, un lot de 20-25 personnes sont supposées occuper. Pas rien, ils n'ont pas de support. Quand le monde a besoin de manger, qu'est-ce que tu peux faire comme travailleur si tu n'as pas d'argent à donner, si tu n'as pas de transport? Les billets de tickets de transportation sont les plus valuables et ils ne peuvent pas le donner. Ils en donnent une coupe, c'est tout. Alors, on voit tout ce problème-là. Mais encore, les travailleurs ne peuvent pas ont peur ou parler de ce qui se passe. Et on espère, nous autres, en poussant un peu, qu'on va commencer à sortir l'histoire. Mais...
Ça m'est revenu, parce que la première chose que je voulais vous dire, c'est, tu as parlé de, justement, Street Homes. Ben là, j'ai trouvé ça intéressant, c'est l'administration Bush qui a participé. C'est inspiré de...
Ça vient des États-Unis,
ouais. Mais... Tu as parlé de 2005?
En 2005, la ville a introduit Streets to Homes.
Parce qu'à Vancouver, quand il y a eu l'administration COPE plus progressive, là, parce qu'avant, c'était un peu... En tout cas, là, il y avait... En tout cas, c'est entre 2001 puis 2005 que, justement, ils ont commencé à faire ça... À Vancouver aussi. OK? Il prenait, en passant, le code postal le plus pauvre au Canada, c'est le Downtown Eastside. Fait qu'il prenait les gens du Downtown Eastside, puis il les shippait dans le sud de la ville ou dans des quartiers, tu sais, qui n'ont pas rapport, ces gens-là. Ils n'ont pas de vécu, là. Tu sais, c'est comme, tu arrives nulle part. Puis des logements, pareil, comme tu as dit.
Ouais, ouais.
Il te faut dans des logements qui ne sont pas des logements sociaux. Qui sont mal réparés ou mal entretenus.
Mais même les logements sociaux, juste pour comprendre, la ville de Toronto, comme celle-là, a besoin de 300 millions de dollars pour réparer les logements sociaux qu'ils ont maintenant. En 1995, en descendant, la province et le fédéral ont donné la responsabilité des logements sociaux à la ville et la ville n'a pas l'argent pour réparer les logements sociaux. Alors, on a une détérioration qui existe maintenant dans les banlieues, que je ne connais pas aussi bien, aussi dans le centre-ville, qui devient intolérable, en fait, des conditions de vie qui, moi, je dirais, vont commencer ou peut-être commencent à ressembler encore les conditions que j'ai décrites à Cabbage Town, qu'on voyait. On retourne dans une situation, parce qu'on ne bâtit pas le logement social, ça fait des années, où on va retourner à des situations qui vont être intolérables. Et moi, je pense que les banlieues vont être, à Toronto, peut-être à Montréal aussi, vont être les nouvelles places où le monde en sont déplacés, où ces problèmes sociaux vont commencer à être très, très visibles. Ils sont plus visibles qu'ils sont maintenant.
À Vancouver, on sait pourquoi. C'est parce qu'ils veulent faire des Olympiques sur des terres volées, puis là, ben, ils veulent nettoyer le centre-ville.
Je ne sais pas quel acquis, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais...
Merci beaucoup, M. Héroux.
Okay. Non, merci beaucoup.
C'est vous. Puis, okay. Peut-être qu'on peut aussi poursuivre la conversation de façon informelle. Bon. Merci.
OK, merci.